Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Cet homme que l'on entend clamer depuis hier, il est en prison pour purger la peine à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence. 18 mois de prison, dont 14 avec sursis, avec mandat de dépôt. Pour cet homme donc qui a essayé de mettre une gifle à Emmanuel Macron, la séquence filmée par un téléphone portable a fait le tour du monde. Damien T. a expliqué s'être investi par ce que représentent les gilets jaunes. Il a écopé également d'une obligation de soins psychologiques et de l'interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Alors c'est une gifle, mais cela aurait pu être pire et s'il avait eu un poinçon. En termes d'image, cette gifle dégradante est peut-être d'ailleurs pire qu'un coup de couteau. Contre les autres qui lui veulent du mal, contre lui-même qui veut soigner sa popularité en allant au contact de ses électeurs, est-il vraiment possible de protéger un chef d'État ? C'est le débat du jour sur RFI.
RFI.
Bonsoir Pascal Vito-Panelli.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancien commandant du service de protection des hautes personnalités. Vous l'avez quitté en 2013. Bonsoir Philippe Moreau-Chevrolet.
Bonsoir.
Les auditeurs de RFI vous connaissent bien pour intervenir régulièrement dans Dimanche Politique parce que vous êtes professeur à Sciences Po, président du cabinet de conseil en communication MCBG, puis vous êtes l'auteur d'une BD très intéressante, hein, Le Président, justement, aux éditions des Arènes. En ligne également avec nous, Georges Ayache. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes historien, ancien diplomate et avocat, auteur, vous, d'un autre livre intitulé « Les présidents des États-Unis », c'est aux éditions Perrin. Alors, ce qui s'est passé dans la Drôme cette semaine est le cauchemar des officiers de sécurité et des membres du service de protection des hautes personnalités. La première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a eu une faille ? Pascal Vito-Panelli, vous en pensez quoi ? Puisque vous êtes, tous les trois, le professionnel de ces choses-là.
Alors, j'en pense que le professionnel va vous décevoir, puisque je ne ferai pas de commentaires d'ordre opérationnel et vous le comprendrez bien. Avec les postes que j'ai occupés en service, les hommes d'élite avec lesquels j'ai pu travailler, je serais bien ingrat aujourd'hui, et quels que soient les radios ou les plateaux, aujourd'hui de mettre une bonne ou une mauvaise note, surtout connaissant la difficulté de ce métier.
Est-ce que c'est une situation difficile à anticiper, ce qui s'est passé ?
Les deux piliers, les deux vecteurs primordiaux de la protection rapprochée, c'est l'anticipation et l'adaptation. Vous dire que c'est facile à anticiper, bien sûr, non. Vous dire que c'est possible, heureusement que oui, mais dès lors que nous avons l'ensemble du paramétrage technique qui est réuni sur la zone. Et là, en l'espèce, il y a eu quelques petits problèmes, on en parlera sans doute tout à l'heure.
Mais parlons-en tout de suite, quels ont été ces petits problèmes ?
Simple, la première des choses, un agresseur potentiel travaille dans l'action. Ça veut dire par là qu'il a toujours un temps d'avance. La sécurité rapprochée, c'est la difficulté de ce métier. Elle travaille dans la réaction. On a, par ailleurs, dans mon troisième élément de réflexion, un président qui souhaite aller au contact. Ça signifie donc que pour être dans ce qu'on appelle le timing de réponse, il faut être littéralement collé, je dis bien, collé au président, et c'est bien là toute la difficulté des bains de foule.
Donc vous avez été dans l'entourage proche de Nicolas Sarkozy quand il était à l'Élysée. Vous diriez que la tension est permanente et que le danger peut venir de partout à tout instant.
Alors moi j'ai surtout travaillé à l'époque dans l'organisationnel autour de ses déplacements à l'étranger, puisque le SPHP a aussi cette facette, on ne fait pas que de la protection rapprochée, on fait de l'organisationnel qui est aussi important. Oui, je vous le confirme, le danger est omniprésent, le danger est partout, puisque à la seconde même où un homme ou une femme est nommé chef de l'État, il se positionne de facto au cœur d'une menace multiforme qui peut arriver de tout un spectre d'individus dont on pourra parler tout à l'heure. Donc la menace est permanente, naturellement.
Alors, qui décide de ces dispositifs de sécurité ? En France, la sécurité propose et le président de la République dispose. Il y a la fameuse adresse de Gaulle, hein, qui est adepte des bains de foule, disait à son ministre de l'Intérieur « Moi, je fais mon travail, monsieur le ministre, faites le vôtre ». Mais dans d'autres pays, c'est l'inverse. Aux États-Unis, en Russie, en Israël, c'est la sécurité qui a le premier et le dernier mot et le chef de l'État obéit. Aux États-Unis, donc, le président est quasiment l'otage de ses officiers de sécurité, Georges Ayache.
Oui, tout à fait, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu attendre l'assassinat du troisième président américain, qui est William McKinley, pour qu'enfin il y ait la mise en œuvre de services secrets dignes de ce nom.
Rappelons que les deux précédents, c'était Abraham Lincoln, James Garfield, et que le suivant, ça a été Kennedy.
C'était McKinley, le suivant c'était Kennedy en effet. Mais pour les deux premiers, il n'y a eu pas tellement de réaction ou d'aménagement, si vous voulez, de la sécurité du président. En revanche, le troisième, sur McKinley, le service secret qui existait déjà depuis 1865, mais qui n'était consacré qu'à combattre la contrefaçon, a été recentré sur la sécurité personnelle du président. Et c'est la configuration qu'on a de nos jours, et c'est la raison pour laquelle, au cours des présidents suivants, il y a eu des attentats. Il y en a eu plusieurs, même contre Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt, Reagan, même Harry Truman, mais la situation a été sous contrôle.
Est-ce que vous diriez que c'est le Secret Service qui tranche si un déplacement est jugé trop dangereux? Personne ne s'y oppose, ni le protocole, pas même le président?
Pas même le président. Cela étant, il se peut que le président puisse avoir des desiderata particuliers auxquels le service secret ne se sont pas opposés. Par exemple, à Dallas, en 1963, le service secret était contre le fait que Kennedy défile dans les rues de la ville avec une voiture découverte, une limousine découverte. Et c'est Kennedy qui a insisté pour qu'il en soit ainsi. Et ça lui a été fatal, comme chacun le sait.
En France, Pascal Bidot-Panelli, ça se passe pas comme ça? C'est le président qui décide.
Alors en France, ça ne se passe pas comme ça. Dans votre phrase, la sécurité propose et le président dispose, je dirais que le président, il ne dispose pas, il décide. Alors, il décide pas d'une manière non plus abrupte, puisque vous vous en doutez qu'à ce niveau, on est, je dirais, dans la sphère de gens plus que brillants. Donc, on fait des réunions préparatoires, on travaille. Les réunions préparatoires, elles se font avec le cabinet du président, avec le protocole et avec la sécurité. Et là, on va travailler en amont, analyser, cibler, disséquer millimètre après millimètre un déplacement, en tant que patron de sécu, signaler et dire « Monsieur, ce déplacement est un déplacement à risque, je ne le ferai pas ou je ne le ferai pas dans cette formule-là, je commencerai plutôt là, j'éviterai d'être dans cette position. » Et là, le président peut vous dire « C'est risqué, mais je veux y aller quand même, débrouillez-vous. »
Et quand le président vous dit « je veux un bain de foule », c'est la pire des choses qu'il puisse vous dire?
Alors, le bain de foule, c'est quelque chose de techniquement difficile, mais qui n'est pas non plus quelque chose d'imparable. Et heureusement, parce qu'on ferait peur, pour les gens qui nous écoutent, à tous les présidents potentiels. Mais il faut qu'il y ait l'ensemble des prérequis qui sont préparés et qui doivent être appliqués tous un par un. C'est-à-dire, si j'ai encore une minute, si vous le permettez, un travail de préparation, des précurseurs sur zone, des ce qu'on appelle les libéraux qui sont derrière la barrière, des joies qui sont...
Ce sont des policiers civils, voilà, du service de protection qui se mêlent à la foule.
Absolument, qui se mêlent à la foule. On appelle ça par éparpillement. Hein, c'est dans je vous en parlerai après dans le système de protection élargie. Et il faut naturellement que dans la foule, le président soit au milieu de son dispositif, au milieu de sa bulle. Les Anglais parlent de box, une bulle hermétique qui comprend un minimum 4 hommes. Un élément avancé, un homme à gauche qu'on appelle le flanc gauche, à droite le flanc droit, et primordial, l'épaule arrière droit, arrière gauche du président, qui en plus a un rôle d'évacuateur. Si cette bulle n'est pas là, le président, dans un bain de foule, s'expose bien sûr à des dangers multiformes.
Le bain de foule, il n'y en a pas aux États-Unis, Jean Jaillas?
Non, il n'y en a pas. Il y en a eu dans le temps, mais depuis les dernières décennies, depuis les années 60, il n'y en a plus. Le président reste à distance et n'apparaît que rarement. Cela étant, même lorsqu'il prononce un discours, il peut être vulnérable, hein, de la même façon. Parce que là, il n'est pas la protection d'un véhicule ou une protection qu'il a habituellement, donc il est exposé d'une certaine manière.
Est-ce que vous diriez que les Américains ont la culture de l'attentat, d'autant que le port d'armes est un droit constitutionnel, hein?
Oui, je serais plutôt enclin à être de votre avis, savoir que c'est une société de violence, c'est une société où les assassinats sont quand même sans commune mesure en ce qui concerne les présidents avec des pays de ce calibre. En France, on a eu que Sadi Carnot, hein, à déplorer. Mais je vous dis, en dehors des assassinats en tant que tels, il y a eu une pléthore d'attentats, y compris d'ailleurs contre Nixon ou Gerald Ford, hein. Il y a eu des tentatives qui ont été inventées et des attentats qui auraient pu être extrêmement grave. Théodore Roosevelt en 1912 échappe miraculeusement à la mort, hein, alors qu'il a été atteint par des balles de revolver. De même Reagan, on n'a pas su sur le moment parce que ça a été quand même assez bien dissimulé, mais il est passé très très près de la mort. Par conséquent, on a une société où la violence est omniprésente. On a effectivement les armes qui prolifèrent et tout ça, ça ajoute à un contexte d'instabilité.
Vous écoutez le débat du jour sur Radio France Internationale.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Après la gifle qu'a pris Emmanuel Macron cette semaine lors d'un déplacement dans la Drôme, lors d'un bain de foule, en tout cas il s'approchait d'une barrière derrière laquelle se trouvaient un certain nombre de citoyens, cauchemar en termes de sécurité, ce bain de foule. Mais geste politique, l'élection présidentielle approche, on peut penser que le président a voulu se montrer proche du peuple. Philippe Moreau-Chauvrelet, je rappelle que vous êtes un spécialiste de la communication politique.
Alors oui, le président est en campagne, hein. Il n'y a pas tellement de mystère là-dessus, il est en campagne pour sa réélection, et il joue une carte qui est une carte assez osée dans la période, qui est celle de la France heureuse, ou le retour à la France heureuse. Donc c'est la petite musique de « il y a une majorité silencieuse de Français qui vont bien », et le discours sur « on est sorti du Covid », qu'il a déjà tenté plusieurs fois, mais qui là, avec la vaccination, semble plus proche de la réalité. Et donc il lance sa campagne, sachant qu'il a un espace d'un mois avant le 1er juillet et la campagne officielle pour prendre de vitesse ses concurrents, faire un maximum de bruit, d'audience et repartir au contact pour essayer de compenser un peu une image qui a pu paraître un peu lointaine.
Et ça
c'est Jupiter,
passe,
début du mandat.
Et ça passe forcément par la poignée de main, par la proximité, ce qui est d'ailleurs étonnant, hein, en période de pandémie de Covid-19 et des distanciations sociales et physiques, on laisse le chef de l'État se faire attraper par le bras.
Alors après, c'est le problème dont vous avez discuté, finalement, c'est un peu celui des limites qu'on doit imposer dans l'intérêt de l'État au chef de l'État. Les Américains ont une solution radicale qui consiste à dire que ce n'est pas la personne qu'on protège, c'est l'institution. Donc ce n'est pas à la personne de décider... dans la majeure partie des cas, ce qu'il doit faire, mais c'est l'intérêt de l'État qui doit dominer finalement dans la décision. En France, on a eu une histoire assez récente où Manuel Valls s'est fait gifler, hein, pendant la précédente campagne présidentielle. Il y a également une tentative d'attentat contre Jacques Chirac.
On en parlera tout à l'heure.
Il y a pas mal de violence par rapport au chef de l'État. Sarkozy a été obligé, Nicolas Sarkozy, pardon, a été obligé de se réfugier à Bayonne parce que la foule devenait menaçante. Il était dans un café. Donc il y a des situations qui deviennent très compliquées. Et là, oui, effectivement, en plus, il y a la pandémie qui devrait absolument interdire qu'on fasse ce type de rassemblement dans l'intérêt des Français et des gens qui sont là, comme du président. Et ça prouve qu'on est plus dans un régime, disons, d'aspiration monarchique que complètement républicain.
Georges Ayache, c'est donc la fonction avant l'homme qui est protégée aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que on touche carrément au sacré quand il s'agit de la personnalité, pardon, du président de la République aux États-Unis?
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui dépasse la fonction individuelle des présidents. Et d'ailleurs, les États-Unis ont mis du temps avant de mettre au point, sur le plan institutionnel, une mesure destinée au remplacement du président en cas de décès. Et il a fallu attendre le 25e amendement en 1967 pour que la question soit réglée. Mais elle ne l'était pas. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu des problèmes avec certains présidents, pas forcément des attentats ou des assassinats, mais simplement des interventions chirurgicales, il y avait de grandes périodes d'incertitude. Notamment dans les années 50, quand Eisenhower a fait une double crise cardiaque alors qu'il était à la Maison-Blanche, le problème s'est posé. C'est pour ça que cette sacralisation a fait qu'on s'est distancié pendant longtemps de problèmes concrets qui risquaient de se poser, surtout dans le contexte américain.
Pascal Bitopanil, ancien commandant du service de protection des hautes personnalités, vous avez donc travaillé également avec des chefs d'État, notamment étrangers. Est-ce qu'il y a d'autres différences de doctrine ? Là, on vient de parler une, évidente, entre la France et les États-Unis, mais avec d'autres pays dans le monde ?
Oui, bien sûr. On avait d'ailleurs au SPHP un service qui s'appelle le GAP, le groupe appui des hautes personnalités, qu'on mettait uniquement sur les dispositifs des personnes les plus menacées. Et donc, bien sûr, Israël, Russie, on a des gens qui arrivent avec leurs hommes, avec un gros équipement, et qui, dès le départ en réunion préparatoire, même sur le territoire français, nous imposent leur méthodologie. Et d'autres encore, on protégeait le pape, on protégeait donc avec des dispositifs qui étaient tout à fait autres, beaucoup plus accentués, qui allaient beaucoup plus loin dans la technique.
Mais ça va très très loin. Je crois que quand Trump est venu en France pour un 14 juillet, oui, les Américains ont amené leur essence, ont amené leur eau pour être totalement autonomes et ne dépendre de personne.
Les Américains ne travaillent qu'avec leur matériel, qu'avec leurs hommes, qu'avec leurs voitures, qu'avec leur nourriture, qu'avec tout.
Vous parliez d'Israël, c'est compliqué de travailler avec des officiers de sécurité israéliens.
Alors ça ne l'était pas pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez carré, qui aime la prévision, qui aime l'anticipation organisationnelle et qui aime avoir des moyens. Les Israéliens sont dans la culture de l'hypersécurité, ils sont des grands professionnels, j'ai toujours eu un grand plaisir à travailler avec eux. On fait comme avec les Américains, ce que j'appelais de la sécurité à 360 degrés, limitless. On ne néglige aucun détail, j'adorais ça.
Ils disent zéro défaut, hein. Je crois que c'est la doctrine du Secret Service, zéro fail, avec des effectifs différents, hein. 3200 agents pour le Secret Service américain, 70 en France, et un budget de 2 milliards d'euros aux États-Unis contre 8 millions en France. Donc c'est résolument un gros poste quand on parle de la présidence américaine, Georges Ayache.
Oui, tout à fait, c'est un gros poste et effectivement, c'est un tel drame lorsqu'un président disparaît tragiquement, surtout à l'échelle institutionnelle américaine, qu'ils préfèrent éviter ça. Ils ont vécu 4 fois cette expérience tragique et ils n'ont pas envie que ça se renouvelle, même si, comme un de l'intervenant le disait précédemment, le risque zéro n'existe pas et on ne peut pas anticiper dans l'absolu.
Puisqu'on parlait d'Israël, ce bel exemple de ce qu'une protection rapprochée peut avoir comme dimension politique, on va en parler avec vous, Philippe Moreau-Chevrolier. C'était Jacques Chirac à Jérusalem, octobre 96, sa célèbre phrase lancée aux gardes israéliens, « This is not a method », avec un fort accent français. Ça veut dire qu'au nom de la sécurité, les policiers israéliens voulaient empêcher politiquement Chirac d'avoir un contact direct, de donner l'image d'un président français populaire chez les Palestiniens.
Oui, alors il y avait naturellement une dimension politique, c'est-à-dire que Jacques Chirac s'est servi du service de sécurité pour faire passer un message, évidemment, au régime, à la population arabe, en disant « je suis aussi de votre côté, regardez, moi non plus, j'aime pas trop les méthodes de ces services de sécurité-là ». Donc il y avait une espèce de langage qui était fait à la fois probablement à destination des services de sécurité, mais surtout à destination des télés, des médias qui étaient présents.
On en revient à cette idée de bain de foule, parce que résolument, Chirac, dans les ruelles de Jérusalem, c'était un bain de foule, une grosse bousculade en tout cas. Dans ce qui s'est passé mardi, revenons là-dessus, ce n'est pas tant le geste qui est violent, c'est l'image, c'est l'humiliation.
Oui, c'est ça en fait que l'Élysée a tout de suite essayé de contrer en disant que c'était pas une claque, mais une tentative de claque. Puis après, en expliquant que la personne n'avait pas d'intention politique, mais qu'elle était... déséquilibré, que c'est le geste d'un fou. Puis après, le président a expliqué que c'était plutôt la faute des réseaux sociaux. Enfin, ils ont beaucoup essayé d'euphémiser ce qui s'était passé, mais c'est difficile parce que le président, pour nous, il est en France très important. C'est la clé de voûte des institutions et il est intouchable. Il est quasiment plus une personne physique, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors quand on le ramène brutalement sur le plancher des vaches, comme dirait Chirac, avec une claque, qui est très humiliant, c'est brutal parce qu'on se dit « ah oui, lui-même est fragile ». C'est pas complètement bordé, quoi. Ce qui n'est pas la faute du service de sécurité, parce qu'on voit, de ce que moi je suis, je suis un spectateur, mais on voit bien le président qui bondit littéralement devant ses officiers de sécurité pour serrer les mains, ce qui est un geste très sympathique. Mais il suffit effectivement de quelqu'un qui a décidé de se faire le président, et ça aurait pu être beaucoup plus grave.
Puisque Pascal Bitot-Panelli, votre ancien collègue Pierre Diot, qui a été le garde-corps de Nicolas Sarkozy, disait cette semaine, le problème de notre métier, c'est le temps de réaction qu'il faut réduire au minimum, ce qui rejoint ce que disait Philippe Moreau-Chauvelet à l'instant, c'est-à-dire la surprise. C'est vrai qu'on voit le président se diriger vers les citoyens spectateurs et le service de sécurité qui tente bien que mal de courir après.
Alors Jean-Pierre Diot, qui est un grand technicien et un ami, dit absolument vrai. Voilà, là c'est un des principaux chantiers, je vous en parlais au début de l'émission, de la sécurité rapprochée. Diminuer au maximum le temps de réaction. Alors sur cette phase-là, vous avez vu, ça vient d'être dit par notre interlocuteur précédent, l'arrêt n'était pas prévu, il s'est improvisé, la zone n'était pas sécurisée et le dispositif a avisé le président. À l'arrêt du véhicule, alors qu'on a des procédures radio arrivées imminentes, etc., le dispositif n'a quasiment pas eu le temps de se préparer et le président est sorti littéralement au sprint en ayant au final un tout petit temps d'avance sur son dispositif, ce qui a, amené à ce geste malheureux. C'est bien là la difficulté. Alors, logiquement, vous savez, dans ces voyages, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que le GSPR, rappelons-le quand même, c'est un groupe qui a un très haut niveau professionnel. Quand le président arrive sur une zone, elle est « safe » dans le jargon de la sécurité. Il y a des hommes qui attendent devant des précurseurs. Vous l'avez dit, il y a les libéraux derrière le barrière-âge. Et le dispositif est collé au président. Donc on peut avoir cette parade. Mais rien n'est jamais impossible. C'est bien là la grande difficulté. Le danger vient de partout. Les gens ont un temps d'avance et nous sommes dans la fulgurance. Dans les moins d'une seconde, on parlait tout à l'heure de l'attentat de Ronald Reagan, 2-3 départs de feu, c'est 1 seconde 6. Il faut donc être extrêmement réactif et c'est bien là la grande difficulté de ces métiers.
Georges Ayache, quand un élu devient président aux États-Unis, la première chose qui lui est dite, c'est un brief sur sa sécurité en lui disant « écoutez, dans les 4 ans qui viennent, votre vie ne sera plus comme avant ».
Oui, il est briefé, et puis de toute façon, il est briefé même dès la campagne électorale, hein, puisque on a un système binaire et un des deux candidats sera élu président. Donc on briefe les deux et on les protège d'ailleurs jusqu'au verdict final. Après quoi, évidemment, c'est le président élu qui fait l'objet de tous les soins des services secrets. Mais par rapport à ce que disait monsieur juste avant, à savoir qu'on prend toutes les dispositions possibles et imaginables concernant des agressions individuelles, qu'il s'agisse d'attentats non mortels ou d'assassinats. Mais aux États-Unis, on a l'exemple de l'attentat organisé. Je ne veux pas dire du complot parce qu'on n'en sait rien, puis le mot a une mauvaise connotation. Mais Dallas, c'est la thèse du tireur isolé, tient à peine. Ce qui fait que s'il s'agit d'une organisation qui a été montée auparavant, là c'est encore plus difficile d'éventer la tentative.
Alors absolument, je suis d'accord avec vous, monsieur, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a très vite, d'ailleurs à partir des années 70 et après, bien sûr, après le petit Clamart, donc 62, on a pratiqué, on a monté en gamme dans la puissance de la protection rapprochée pour en arriver à des sphères. À travailler avec des cercles. Le premier cercle est le cercle de protection rapprochée qui doit travailler avec 3 autres cercles. Un deuxième cercle est celui de la protection élargie, c'est-à-dire qui va aller jusque dans la foule par éparpillement. Une protection longue distance, c'est-à-dire qui va, avec des outils adéquats, pouvoir détecter du sniping, voir des individus ou des véhicules suspects s'approcher de la zone. Et le quatrième cercle, c'est un cercle virtuel, c'est celui du renseignement. La protection rapprochée, elle ne va pas sans l'aide du renseignement.
En tout cas, on est bien loin de ce qui s'est passé en début des années 60, hein, c'était l'attentat du petit Clamart. Il n'y avait pas toute cette organisation derrière les policiers qui protégeaient le général de Gaulle. 5 tentatives d'attentat contre le général de Gaulle. Et au-delà, Philippe Moreau-Chevrolet, tous les prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont été bousculés lors de bains de foule.
Oui, c'est ce qu'on disait. Hein, le conseiller en communication de Manuel Valls, Harold Osier, rappelait cette semaine sur Twitter que Manuel Valls lui-même, donc comme on l'a dit tout à l'heure, avait été giflé. Hein, c'était pendant la campagne électorale. Ça intervient souvent
C'est en général 2016 pour des à Strasbourg.
Oui, c'est 2017, janvier 2017, effectivement, en Bretagne. Alors, Strasbourg, c'était autre chose, il avait été bousculé.
Non, c'est normal, sa candidature à la primaire de la gauche.
Voilà. Mais il avait été bousculé, mais il a été giflé.
À Lamballe.
Bon, il n'a pas eu de chance, Manuel Valls, dans l'ensemble, mais... Mais il a été giflé par un militant d'extrême droite en Bretagne également. Et il a, effectivement, c'est souvent en période électorale, c'est d'ailleurs en général en période électorale, puisque Chirac, Maxime Brunnery, la tentative d'attentat, c'était un 14 juillet, juste après son élection en 2002, qui était une élection, comme vous le savez, extrêmement tendue. Donc c'est dans des climats de tension, et tension électorale en particulier, qu'on décide de s'en prendre à la personne du chef de l'État. Et c'est souvent l'extrême droite en France, alors c'est peut-être un hasard complet, mais c'est souvent l'extrême droite qui est à l'origine de ça, dans les années récentes en tout cas. Et je voudrais ajouter comme que le service de sécurité sur la BAF à Macron a été efficace, parce que Emmanuel Macron, sa première réaction, on voit ça quand on a l'angle de caméra de loin, c'est d'aller au contact et d'essayer de... Enfin, il est très énervé, quoi, il veut lui en coller une aussi. Donc là où le service de sécurité a été extrêmement efficace, c'est qu'ils l'ont empêché, ils l'ont calmé, ce qui fait que ça a évité de produire des images qui auraient pu être extrêmement négatives pour lui.
Vous dites que le service de sécurité a protégé le baffeur plus que le président de la République. En tout cas, ce Damien T, vous faisiez allusion à l'extrême droite, a proféré un slogan proche de certains milieux royalistes et d'extrême droite. Donc on serait toujours dans cette lignée-là.
Oui, on serait dans cette lignée-là. Il revendique en tout cas, lui, une posture qui est une posture politique. Et c'est là où on a deux récits en communication qui se heurtent. Le récit de l'Élysée qui dit « ça n'est absolument pas un acte politique, c'est un déséquilibré, ça peut arriver, c'est pas grave ». Et lui qui dit « si, moi je l'ai battu pour des raisons politiques, parce que politiquement je suis opposé à lui et que les gens sont en colère ». Donc il y a deux récits qui s'opposent et qui se mettent à pied avec d'égalité. Et c'est ça qui est redoutable pour un président de la République en exercice, c'est de se retrouver à dialoguer quelque part avec quelqu'un qui n'est pas du tout au même niveau. C'est ce qui est arrivé avec François Hollande et Léonard Dat, par exemple. Il y a des moments où là, ça souffre.
Pascal Bitto-Panelli, vous confirmez ce que le regard de Philippe Moreau-Chevrolet, comme quoi le service de protection a retenu la main d'Emmanuel Macron?
Alors ça, écoutez, le service de la protection, dès lors qu'il y a eu agression, on fait évacuation, c'est immédiat, hein, on retire le président. Après, je pense que le président voulait retourner. Donc il a été bloqué. Je peux pas exactement vous dire si le président avait envie de répliquer. Je ne m'aventurerai pas.
Et vous disiez, Philippe Moreau-Chevrolet, que ça aurait été désastreux en termes d'image. Cela dit, quand François Bayrou gifle un jeune qui voulait lui faire les poches, ça a fait monter sa cote de popularité.
Absolument. Alors c'est les deux gifles célèbres en fait dans notre histoire politique récente. Mais le contexte n'était pas le même. Parce que François Bayrou était quelqu'un qui émergeait sur la scène politique à l'époque, mais qui avait pas encore beaucoup d'images. Et le fait, pour un centriste, quelqu'un qui était un petit peu fade au départ, de donner une claque à quelqu'un qui lui faisait les poches, ça montrait l'homme d'autorité de droite capable de diriger le foyer, donc la France, si on prend une métaphore comme ça. Là, c'est différent parce qu'il est victime.
Georges Ayache, vous avez écrit les présidents des États-Unis. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez le souvenir d'une baffe? Est-ce que ça a été donné? Est-ce qu'une baffe a été donnée aux États-Unis contre un chef de l'État?
Non, j'ai le souvenir d'une chaussure qui a été lancée sur le président. Il s'agissait de W. Bush, mais ça se passait en Irak. Donc, c'est pas du tout comparable. Sur le territoire américain, non. Non, j'ai pas le souvenir d'une baffe. La violence est beaucoup plus sérieuse, si vous voulez, beaucoup plus dramatique en règle générale. Mais là aussi, sur deux assassinats sur quatre, il s'agit de personnes déséquilibrées, qui ont été reconnus tels d'ailleurs. Et idem sur les attentats non mortels contre des présidents, ce sont des personnes qui ont été déséquilibrées jusqu'à Reagan d'ailleurs, hein, puisque son agresseur n'a pas été exécuté, comme les présidents américains auparavant, mais il a été interné à vie, puisqu'il est ressorti qu'en 2016, de 80 à 2016.
Une dernière chose, Pascal Bitto-Panelli, est-ce que ce qui s'est passé mardi va amener un renforcement de la sécurité en ce début d'année présidentielle, on va dire, de campagne?
Je ne le pense pas. Je ne pense pas que le président voudra renforcer le GSPR. Il veut continuer à être dans la foule, à déambuler, à serrer des mains de manière, comme c'est dit, désinstitutionnalisée. Donc je ne vois pas actuellement une possibilité de renfort.
Merci pour ces analyses et ces commentaires. À vous autres, Pascal Bitopanelli, donc ancien commandant du service de protection des hautes personnalités, Philippe Moreau-Chauvrelet, auteur d'une bande dessinée très intéressante et très sérieuse, hein, même si c'est écrit avec beaucoup d'humour, Le Président aux éditions des Arènes. Et puis Georges Ayache pour Les Présidents des États-Unis aux éditions Perrin. Merci à Jean-Philippe Thury pour la réalisation et Éléonore Krajnik pour son aide dans la construction de ce débat du jour sur Radio France Internationale. Thank you.